de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. La collaboration entre créateurs et PME augmente la promotion des produits locaux. Luhut a révélé l'objectif du forum AIS, une reprise basée sur l'économie bleue. L'Indonésie et le Sri Lanka explorent le potentiel de coopération maritime et d'économie bleue. La Suède et l'Indonésie s'engagent à atteindre les objectifs de développement durable. Le G7, l'UE et l'Australie commencent à plafonner les prix du pétrole russe. Le Japon modernisera ses unités de défense antimissile sur des îles éloignées. Voici le journal complet. Le vice-ministre du Commerce, Jerry Sambuaga, lors de l'événement « Les créateurs indonésiens travaillent, regardez l'Indonésie grandir » organisé par YouTube lundi 5 décembre à Jakarta, a souligné que la collaboration des créateurs YouTube et des petites et moyennes entreprises PME peut accroître la promotion de produits locaux. Ainsi, selon lui, le mouvement national fier d'être fabriqué par l'Indonésie ou Gernas BBI ne devient pas seulement un slogan, mais se manifeste également dans la vie de tous les jours. Cette activité est incluse dans la série d'événements annuels Google pour l'Indonésie qui se tiendra le 7 décembre 2022. Les créateurs indonésiens travaillent est un événement de leadership éclairé exclusif auxquels participent des dirigeants d'institutions gouvernementales, des dirigeants de haut niveau, au niveau C, d'entreprises connexes, des dirigeants de médias de masse et plusieurs créateurs YouTube innovants et de premier plan. L'Indonésie encourage une reprise post-pandémique basée sur une économie bleue à travers la 4e réunion ministérielle du Forum des États archipélagiques et insulaires au Forum AIS à Nusa Dua, Bali, les 5 et 6 décembre 2022. Le ministre de la Coordination des Affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Panjaitan, a révélé que l'objectif du forum AIS est de parvenir à une reprise post-pandémique basée sur une économie bleue, le développement durable et la santé des océans et de créer une solidarité entre les nations insulaires. Le forum AIS est une plateforme de coopération concrète formée pour accueillir 47 pays insulaires et archipels du monde entier afin de surmonter ensemble les défis et les problèmes auxquels ils sont confrontés, en particulier dans le secteur du développement maritime. Le ministre coordinateur des Affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Panjaitan, a tenu une réunion bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères de Sri Lanka, Taraka Balasurya, pour discuter de diverses coopérations potentielles en matière de sécurité et de sûreté maritime, ainsi que des investissements dans l'économie bleue entre les deux pays. La réunion bilatérale s'est tenue en marge du forum archipélagique et état insulaire au Forum AIS lundi 5 décembre à Bali. Luhut estime que la coopération bilatérale entre l'Indonésie et le Sri Lanka doit être optimisée pour ouvrir des opportunités de construire et de faire progresser le développement économique, y compris une économie basée sur les ressources maritimes. En dehors de cela, l'Indonésie voit également l'importance de la coopération dans l'atténuation des catastrophes et la gestion de l'impact des catastrophes, étant donné que le Sri Lanka est également en pays sujet aux catastrophes. Les gouvernements indonésiens et suédois se sont engagés à travailler ensemble pour atteindre les objectifs de développement durable ODD en réalisant l'agenda 2030. L'ambassadrice de Suède en Indonésie, Marina Berg, lors de l'événement du partenariat Suède-Indonésie pour le développement durable SISP lundi 5 décembre à Jakarta, a déclaré que l'Indonésie et la Suède s'étaient engagés à réduire les émissions de carbone et à fixer des objectifs pour atteindre zéro émission nette. Selon elle, cette année, les relations bilatérales entre l'Indonésie et la Suède ont été encore renforcées par la visite de la délégation suédoise à Nusa Tenggara en août et une visite à Surabaya en octobre, qui s'est concentrée sur la coopération dans le domaine de la durabilité, en particulier les énergies renouvelables et les systèmes de transport. Pendant ce temps, par le biais d'un lien vidéo, l'ambassadeur d'Indonésie en Suède, Kama Pradipta Isnomo, a expliqué que l'Indonésie tentait de renforcer la coopération avec la Suède lorsqu'elle était confrontée à des défis pour développer et étendre l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables. Le groupe des 7 plus grandes économies ou G7, l'Union européenne, UE et l'Australie ont commencé lundi à imposer des plafonds de prix sur le pétrole russe transporté par voie maritime. Le plafonnement des prix a été imposé au milieu d'un embargo de l'UE sur les importations de pétrole brut russe par voie maritime et d'accords similaires conclus par les États-Unis, le Canada, le Japon et le Royaume-Uni. Reuters rapporte que le plafonnement des prix du pétrole brut sera suivi d'une mesure similaire pour les produits dérivés du pétrole en provenance de Russie le 5 février, bien que le montant n'ait pas encore été déterminé. Les autorités japonaises envisagent de presque tripler le nombre d'unités de capacité de défense de la force d'autodéfense équipée d'interception de missiles balistiques sur des îles éloignées du sud-ouest du pays à la fin de l'année fiscale 2031. Cela a été transmis dans un projet de plan qui devrait être inclus dans le guide du programme de défense nationale du gouvernement japonais. Cette mesure a été prise par le gouvernement japonais car le pays se concentre sur l'augmentation de ses capacités de défense, en particulier dans le sud-ouest qui est une zone stratégique importante au Japon, compte tenu des tensions militaires avec la Chine en mer de Chine orientale. Kyodo News a rapporté dimanche 4 décembre, conformément à l'augmentation de sa capacité de défense antimissile, le gouvernement japonais a l'intention de construire une capacité d'attaque de base ennemie ou capacité de contre-attaque. Le gouvernement affirme qu'un système de défense antimissile ne suffit pas à lui seul pour que le Japon puisse faire face au progrès rapide du développement de la technologie de missiles par des pays comme la Chine, la Corée du Nord et la Russie. Cette capacité de contre-attaque permettrait au Japon de tirer et de désactiver les missiles ennemis avant qu'ils ne soient lancés depuis un territoire étranger. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Oh,
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre « Apprendre de diverses catastrophes ». La nation indonésienne est actuellement en deuil. Le 21 novembre, un tremblement de terre d'une magnitude de 5,6 a frappé la région de Cianjur dans la province de Jawa Occidental. 334 personnes sont mortes et plus de 100 000 personnes ont été déplacées par le tremblement de terre. Inachevé face à l'impact du tremblement de terre de Cianjur, le Mont Semeru dans la province de Jawa Oriental a craché le 4 décembre des nuages chauds atteignant plus de 5 000 mètres. Des nuages chauds volcaniques et des cendres se sont répandus dans les environs, provoquant la fuite de milliers de personnes. Il y a même trois hameaux ensevelis sous les cendres volcaniques. Jusqu'à présent, aucun décès n'a été signalé. Le Centre de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques, PVMBG, a révélé le statut de Mont Semeru d'alerte à attention ou du niveau 3 au niveau 4. Il est conseillé au public de ne pas mener d'activité dans un rayon de 13 km du centre de l'éruption car on craint que les nuages chauds se propagent plus largement. Les tremblements de terre et les éruptions volcaniques ne sont pas étrangers au peuple indonésien. Géographiquement, l'Indonésie est un pays archipel situé au confluent de quatre plaques tectoniques, à savoir la plaque eurasienne, le continent indo-australien, l'océan Indien et l'océan Pacifique. De plus, l'Indonésie est située dans la zone du cercle de feu où se trouvent de nombreux volcans actifs. Cet aspect géographique rend l'Indonésie sujette aux tremblements de terre et aux tsunamis. L'Indonésie aurait un taux de tremblement de terre 10 fois supérieur à celui des États-Unis. En fait, l'Indonésie est classée première dans la menace d'un tsunami selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. Le peuple indonésien apprend encore des diverses catastrophes naturelles qui se sont produites. Comment se préparer à l'impact des catastrophes? Peut-être que le gouvernement est mieux préparé en ce qui concerne l'atténuation des catastrophes. Cela se traduit par la rapidité avec laquelle l'aide logistique a été distribuée et la préparation des sites d'évacuation. Pendant ce temps, le nombre de décès peut également continuer à minimiser. Cela peut être vu par l'absence de rapports de décès dû à l'éruption du Mont Semeru. Le gouvernement local, aidé par des officiers du centre de TNI et Polri, a pu rapidement évacuer les habitants de la zone sinistre. Je veux dire de la zone sinistrée. Mais en fait, la chose la plus importante est de préparer les résidents à l'atténuation des catastrophes. Il faut leur faire comprendre qu'ils vivent dans une région où il y a un potentiel de catastrophe naturelle. Ils devraient également être informés de ce qu'il faut faire si une catastrophe se produit ou s'il y a des signes qu'un phénomène naturel est sur le point de se produire. De cette façon, les victimes peuvent être évitées. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 6 décembre 1917. La Finlande proclame son indépendance. Le 6 décembre 1917, quelques mois après la révolution bolchevique en Russie, la Finlande déclare son indépendance de l'Empire russe. Auparavant, la Finlande était contrôlée par la Russie depuis 1809 après avoir été libérée des griffes de la Suède. Fixée par le Parlement finlandais, la déclaration d'indépendance a déclaré que la Finlande, en tant que pays indépendant, et a mis fin à son statut de région autonome de Russie. Passons maintenant à l'événement du 6 décembre 1928, il y a le massacre des travailleurs des plantations de bananes en Colombie. Le 6 décembre 1928, il y a un massacre de manifestants, dont la plupart étaient des ouvriers des plantations de bananes de la ville de Chinaga, province de Magdalena, Colombie. La tragédie connue sous le nom de massacre de bananes. a été motivé par le traitement injuste des travaillant dans les plantations de bananes gérées par une multinationale des États-Unis, Compagnie Unie des Fruits, UFC. Le traitement comprend les bas salaires et l'absence de l'assurance maladie et d'assurance contre les accidents de travail. Cela a poussé les travailleurs de la plantation à faire grève et à organiser des manifestations depuis novembre 1928 pour demander la justice à l'UFC. Cependant, les efforts des travailleurs pour obtenir une vie meilleure se sont heurtés à un déluge de balles de l'armée colombienne qui a entraîné la mort de plus de 1000 personnes. Nous finissons avec l'événement du 6 décembre 2008, le glissement d'Antarabangsa en 2008. Le glissement de terrain de Bukit Antarabangsa en 2008 était un glissement de terrain qui s'est produit le 6 décembre 2008 à la colline d'Antarabangsa, Ulukang, Selangor, Malaisie. 5 personnes sont mortes et plus de 8 personnes ont été enterrées dans un glissement de terrain à la colline d'Antarabangsa. Antarabangsa, Ulukang, près de Kuala Lumpur. Ce glissement de terrain a enseveli 14 bungalows à Taman Bukit Mewah et Taman Bukit Utama. Cet incident s'est produit à 4h du matin, heure locale. Ces auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Lalu pergi, jangan pernah ragu apa kata isi.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie, intitulée La 7e session plénière de l'UICF. Met l'accent sur l'engagement à succéder à la présidence de l'Indonésie au sein de l'ASEAN 2023. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, le ministère des Affaires étrangères a tenu la 7e réunion plénière du Forum consultatif Indonésie-ONU, IUNCF, qui s'est tenu de manière hybride à Yogyakarta le 2 décembre 2022. Le Forum consultatif Indonésie-ONU est un forum de consultation annuelle entre le gouvernement de l'Indonésie et les Nations Unies en Indonésie. Citant la page kemlu.go.id, le 3 décembre, le directeur général de la coopération multilatérale du ministère des Affaires étrangères, Tri Tariat, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture que face aux défis mondiaux, l'UNCF doit être renforcée en tant que plateforme de coordination pour le gouvernement indonésien et les Nations Unies, qui soit inclusif, synergique et efficace. Les participants à la plénière de l'UICF ont participé aux trois principaux ordres du jour du forum, à savoir le rapport du groupe de travail 1 sur le partage d'informations et le développement de la coopération GT1, le rapport du groupe de travail 2 sur l'administration GT2 et les discussions. Le groupe de travail 1 sur le partage d'informations et le développement de la coopération se concentre sur le développement de la coopération sur les questions de migration, en particulier dans la mise en œuvre du Fonds fiduciaire multipartenaire pour la migration MMPTF. Lors de la session suivante, le rapport du groupe de travail 2 sur l'administration a examiné l'évolution d'un certain nombre de questions administratives, telles que l'accord avec le pays hôte ou bien HCA, les installations consulaires, les problèmes de douane, des véhicules et la mise en œuvre des politiques d'importation. La réunion a réuni des représentants des ministères et agences indonésiens et des agences des Nations Unies en Indonésie et a discuté de divers cadres de coopération Indonésie-ONU dans le domaine du développement. En outre, le point culminant de la 7e session plénière de l'UICF a été la discussion thématique sur le thème de la présidence indonésienne de l'ASEAN en 2023. La réunion a pris note des priorités de la présidence indonésienne de l'ASEAN autour du thème « L'ASEAN compte l'épicentre de la croissance » et des opportunités de soutien de l'ONU pour soutenir cette présidence. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie a exprimé son engagement à organiser la session spéciale du groupe de travail 1 sur la présidence de l'Indonésie au sein de l'ASEAN 2023 afin d'examiner plus avant divers mécanismes et programmes de coopération entre l'Indonésie et l'ONU au cours de l'année prochaine. L'IUNCF est un mécanisme de partenariat stratégique lancé par le gouvernement indonésien et l'Agence des Nations Unies en Indonésie en 2013 dans le but de renforcer la coopération et la coordination entre l'Indonésie et l'ONU. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Mon Indonésie. De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. From Indonesia to the world.
forget about the dress. You didn't wear it to impress. I said you look nice, my voice was breaking. Giving you flowers, hands were shaking. When I met you, you were 10. Even though things were different then, I still get the butterflies around you. I get weak down to my knees.
You and I, we could fly together like a hot air balloon in the sky. Take your time, we can last forever. Silver rain make me feel so divine.
Also, and you're still as beautiful as flowers grow. We're not together, we're united. Smell of your skin is on my blanket. It's our song, don't need a ring. Because of you, I wanna sing. We don't need to say I love you. Cause I know where I have you.
You and I, we could fly together like a hot air balloon in the sky. Take your time, we could last forever. Silver rain make me feel so divine.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine culturel. Et cette fois, nous allons présenter Genceruan, la cuisine typique de Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara est l'une de la région de Kalimantan Oriental. Comme d'autres villes d'Indonésie, Kutai Kartanegara propose également des aliments spéciaux qui ont un goût délicieux, unique et riche en épices. Le goût culinaire de Kutai Kartanegara est un mélange de tribus indigènes, à savoir Kutai et Dayak, et de tribus migrantes. Il existe une variété d'aliments typiques de Kutai Kartanegara à base de poissons transformés, de viande, de légumes et d'autres fruits de mer, entre autres Genceruan. Genjeruan etang alimang tipik de la region de Kutai Kartanegara. Lomo genje signifi la se senemong ou les épices utilisés, tandis que ruan signifi poisson haruan ou poisson à tête de serpent. Son nom scientifique est Channa striata. Les habitants de Kalimantan l'appellent généralement jukut ou iwa ruan. Même si ce poisson est connu comme un prédateur, ruan peut être un repas sain et délicieux. Genje ruan est un plat de poisson à tête de serpent grillé, arrosé d'une sauce chili frite épicée spéciale. Il est fabriqué en brûlant d'abord de poisson à tête de serpent. Le poisson est saupoudré de sel et ensuite grillé sur du charbon. Après cela, le poisson est arrosé de sauce chili sautée à base d'échalotes, d'ail, de piment et d'autres épices. L'apparence de genje ruan est en effet d'un bout rouge à cause de la sauce piment rouge et il est différent des plats épicés similaires d'autres régions. Cela fait la sauce chili plus piquant. Le genje ruan est délicieux servi avec du riz chaud. Cette cuisine est facile à trouver dans divers restaurants de Kutai Kartanegara. Son prix de 40 000 de rupiah jusqu'à 100 000 de rupiah selon la taille du poisson. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Okay.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. C'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Pernah Kelikupang? Pernah Kelikupang? Tu as été déjà à Likupang? Bonne écoute! Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien. Pernah Kelikupang? Pernah Kelikupang? Tu as été déjà à Likupang? Cette conversation se déroule entre Dev Singh, un touriste indien, et Uli, un guide touristique sur le lac Toba. Dev demande si Uli a été déjà à Likupang. Bonne écoute.
Bolehkah saya berkeliling di Pulau Komodo sendirian?
Tidak boleh. Wisatawan wajib ditemani pemandu lokal.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Pernah Kelikupang? Pernah Kelikupang? Tu as été déjà à Likupang? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois et puis vous pouvez me répéter. Lusa. Lusa, le lendemain. Akan. Akan. Allez. Pernah. Pernah. Déjà. Likupang. Likupang. Kesana. Kesana. Là-bas. Saya pernah ke Likupang dua kali. Saya pernah ke Likupang dua kali. J'ai été à Likupang deux fois. Dans la conversation, vous avez entendu l'expression Saya pernah ke Likupang dua kali. Saya pernah ke Likupang dua kali. J'ai été à Likupang deux fois. Dans ce discours, il y a l'expression pernah. Pernah, déjà. L'expression pernah, pernah, déjà, est utilisée pour exprimer des activités qui ont été réalisées. Dans cet énoncé, l'expression pernah, pernah, déjà, est utilisée par Dev pour exprimer les activités qui ont été menées, à savoir aller à Likupang. Chers amis, un autre exemple. En plus de déclarer des activités qui ont été réalisées, le mot pernah, pernah, déjà, peut être utilisé pour exprimer quelque chose qui a été vécu ou ressenti. Alors maintenant, écoutons un exemple d'utilisation de l'expression pernah. Pernah, déjà, exprime quelque chose qui a été vécu ou ressenti. Par exemple, Anda pernah demam sebelumnya? Anda pernah demam sebelumnya? Avez-vous déjà eu de la fièvre? Saya pernah demam sebelumnya. Saya pernah demam sebelumnya. J'ai déjà eu de la fièvre. Chers amis, dans la conversation précédente, Dev a demandé à Uli, Kamu pernah ke sana? Kamu pernah ke sana? As-tu déjà été là? En indonésien, vous pouvez également utiliser l'expression pernah, pernah, déjà, dans des phrases interrogatives pour poser des questions sur des activités ou quelque chose qui a été vécu ou ressenti. Par exemple, kamu pernah ke Likupang? Kamu pernah ke Likupang? Tu as été déjà à Likupang? Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien, pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Bolehkah saya berkeliling di Pulau Komodo sendirian?
Tidak boleh. Wisatawan wajib ditemani pemandu lokal.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Shining down on me so bright, driving my ride through the city in the night. Everything is good and all right. We're gonna party till the morning light. We'll be right back.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Voice of Indonesia.
Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3-5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Purnama sinari maya padang dalam kilau selaksa cahaya sang sapurba tiba di bumi swarna disambut dengan sukacita cahaya bulan cerlang cemerlang, sungai tatang mengalir tenang, bukit seguntang gilang gemilang, wan sendari pun dipinang. Merah delima bunga cempaka jadi mahkota lahirlah putra sang nila utama penerus rumpun pewaris tahta tajam pedang tajam belati sakti si anak negeri patahlah tumbuh hilang berganti takkan melayu hilang di bumi bukit degun termasyhur sejak dahulu Bukit Seguntang Ulu Melayu aduhai akan terkenang selalu Thank you.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.